vous propose de lire le passage, chapitre 2, dans l'évangile de Jean. Yann va venir nous le lire, mais avant ça, je vais prier pour que Dieu, effectivement, nous parle par sa parole. Prions. Père Céleste, merci pour cette opportunité que nous avons de nous réunir. Que ta parole puisse nous bousculer, que ta gloire puisse nous secouer. C'est notre prière ce midi. Au nom de Jésus. Amen.
Alors notre passage aujourd'hui est dans l'évangile de Jean au chapitre 2. On va lire des versets 1 à 11. Et c'est sur la page 687 dans nos Bibles. Donc Jean chapitre 2. Or le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après que l'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Alors, par rapport à la question de lancement, là, le fait est qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui brûlent d'envie d'être témoins de ce qu'on appelle parfois un réveil spirituel dans ce continent ténébreux, finalement, qu'est l'Europe. Un mouvement massif de personnes vers Jésus-Christ. Et l'un des analystes de ces réveils les plus respectés explique que les réveils commencent chez les croyants qui, eux, se réveillent en quelque sorte avant qu'il y ait un impact sur d'autres. Tout commence, nous est-il dit, lorsque l'Église entrevoit la gloire de Dieu sur la face du Christ. Dans notre passage qui vient d'être lu, il est question d'entrevoir la gloire de Dieu sur la face du Christ. Je ne suis pas en train de prévoir que le réveil en Europe commence dès maintenant ici, durant ce repas. Mais il se trouve, au regard de notre passage, que nous nous trouvons dans l'obligation de contempler la gloire du Christ. Et cela tout simplement parce que le passage explicite cela pour nous. Je vous invite à voir le dernier verset qui vient d'être lu, le verset 11 du chapitre 2. Dans ce passage, Jésus opère son premier signe miraculeux. Et nous lisons là, dans le dernier verset du passage, que Jésus manifesta sa gloire. Si vous êtes en train de suivre en regardant le canevas, donc c'est manifesta, non pas manifestera. Jésus manifesta sa gloire, verset 11. Or, il nous est dit vers la fin de cet évangile, l'évangile de Jean, que les signes miraculeux sont rapportés afin que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Qu'est-ce qui, en ce signe en particulier, nous permet de percevoir la gloire du Christ, ou de connaître une croyance, affermie en Christ, du fait d'appréhender sa gloire? Déjà, le fait de transformer de l'eau en vin est remarquable. L'œuvre de Dieu le Créateur. Voici Dieu en chair et en os. Mais il y a plus encore à nous couper le souffle. En effet, certains détails dans ce passage, sur lesquels nous allons nous attarder, reprennent des informations importantes déjà fournies par Jean dans son introduction au chapitre 1er. Il y parlait déjà dans son introduction de la gloire de Jésus-Christ, de la gloire de la parole faite chair. Lisons le chapitre 1er et le verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Grâce et vérité, cette expression qu'on vient de lire deux fois, qui est employée là à deux reprises, en rapport avec la gloire du Fils. C'est une expression technique, puisée dans l'Ancien Testament, et qui connote la fidélité de Dieu à ses promesses bienveillantes. Or, au tout début, les êtres humains se sont rebellés contre Dieu, ce qui a amené une malédiction imposée par Dieu. Et puis, dans sa bonté extraordinaire, Dieu a fait des promesses à Abraham, promesses destinées à remédier au problème de la rébellion, voire au problème de la malédiction imposée par Dieu par suite de la rébellion. Au moment où ce miracle se produit, jusque-là dans l'histoire, ces promesses-là ne se sont pas réalisées. La vie du peuple de Dieu jusque-là a été régie par une alliance établie au mont Sinaï, par un régime de grâce, certes, des sacrifices pouvaient être offerts en vue d'apaiser la colère de Dieu à la suite de bien des péchés commis. Mais au fond, c'était un régime qui ne remédiait pas à la source du problème, au problème du péché, de la rébellion. La loi, nous venons de lire, a été donnée par Moïse, mais obéir à cette loi n'a pas été à la portée du peuple, ce qui a donné lieu concrètement, à davantage de malédictions et a fait que ce régime devait être remplacé par un autre régime où la grâce se manifesterait davantage. Grâce sur grâce, nous venons de lire, ou dans une autre traduction, grâce pour grâce, grâce à la place de grâce, grâce accrue, grâce et vérité, à la place du régime de la loi de Moïse, la réalisation des promesses de Dieu qui se situent dans la personne de Jésus-Christ. Au lieu d'un régime de condamnation, car on n'arrivait pas à respecter la loi, un régime de bénédiction, là où il n'y avait que la grâce temporaire, partielle, sous forme d'ombre. Maintenant, la réalité de la grâce dans toute sa permanence et toute sa plénitude et toute sa splendeur. Et si nous voulons goûter à la gloire de Dieu durant ce moment ensemble, le point de départ, c'est de nous rappeler le besoin que nous avons de connaître cette grâce. Nous aurions pu rester sous un régime condamnateur. À moins d'être juif, ce n'aurait pas été la loi de Moïse. Mais la loi implantée dans notre cœur par Dieu, la loi de notre conscience, Nous aurions pu essayer de respecter parfaitement cette loi et nous présenter devant Dieu à la fin des temps sur base de notre prestation. Mais la moindre faute, la moindre pensée impure, la moindre parole déplacée, le moindre acte d'égoïsme, et ça aurait été la condamnation. Cet évangile précise que la colère de Dieu demeure sur les personnes qui ne sont pas croyantes. Mais voyez-vous que dans notre passage du chapitre 2, qui a été lu par Yann, cette transformation extraordinaire de l'eau en vin permet de saisir la gloire du nouveau régime instauré grâce à Jésus-Christ. Notre première observation, si vous voulez suivre la trame sur le canevas, la transformation extraordinaire de l'eau en vin opérée par Jésus-Christ. En effet, Jean se donne la peine d'attirer notre attention sur le caractère de la transformation. Les détails du verset 6 ne sont pas anodins, ne sont pas sans incidence. Chapitre 2, verset 6. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Purification des Juifs faisait partie intégrante de la loi de Moïse, justement, de ce pacte du Sinaï, de cette ancienne alliance condamnatrice. L'une des peines de l'ancien régime, c'est qu'on risquait constamment d'être impur et donc exclu, comme si l'on souffrait du virus Ebola. Ne venez pas par ici, je suis contagieux! C'était affreux. Et l'impureté n'était jamais loin sous l'ancien régime. Une femme passe par ses règles mensuelles. Elle est impure. Son mari touche le lit de son épouse et lui devient impur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laver ses vêtements. Il doit se laver. Il doit se purifier. Dans toutes sortes de cas de figure, dans l'ancienne alliance, on se trouvait impur. Et dans toutes sortes de cas de figure, on devait passer par le rituel de purification. Les ablutions rituelles occupaient une place importante dans l'ancienne alliance. 6 grands récipients destinés à un tel usage, contenant de l'eau, l'eau de la purification, contiennent maintenant autre chose. Jésus n'est-il pas en train de démontrer que l'ancien régime est caduque? Qu'on passe maintenant de la loi donnée par Moïse à la grâce et la vérité qui viennent par Jésus-Christ? N'est-il pas en train de manifester sa gloire? Évaluons cette transformation pour pouvoir contempler la gloire du Christ. L'eau des ablutions n'existe plus parce que l'eau des ablutions n'a plus lieu d'être. On laisse de côté maintenant le régime condamnateur de la loi qui doit céder la place maintenant au régime de quoi exactement? Observons un deuxième détail au verset 6. La quantité extraordinaire du vin produite par Jésus-Christ. La quantité extraordinaire du vin produite par Jésus-Christ. Nous lisons au verset 6 que chaque récipient, chaque jarre contenait une centaine de litres. N'oublions pas que la quantité d'eau en question, nous l'avons lu tout à l'heure, Yann l'a lu dans le passage, la quantité d'eau en question égale la quantité que pouvaient contenir ces jarres, parce que, sous la surveillance de Jésus, les récipients sont remplis jusqu'au bord, ça c'est le verset 7, une centaine de litres dans chaque récipient. Voici, ce n'est pas de l'eau en l'occurrence, mais un litre. fois 100 dans chacune des 6 jars pour essayer d'avoir une idée de la quantité en question. Si vous voulez raisonner en termes de bouteilles classiques de vin, on a affaire à 800 bouteilles de vin. La prochaine fois où vous organiserez un mariage, vous n'aurez pas la gêne sociale dont il est question dans notre passage, c'est-à-dire il va y avoir suffisamment de vin. Si vous prévoyez en moyenne une demi-bouteille par personne, s'il y a 160 personnes au mariage, donc ça veut dire 80 bouteilles comme ça, ça devrait suffire largement. Et selon les dimensions de votre voiture, vous pourriez essayer de les transporter dans le coffre. 80 bouteilles dans le coffre, c'est peut-être réaliste, ça dépend. Mais ici, on a affaire à 10 fois cela. Il ne faudrait plus penser en termes de voiture, hein. Il faudrait penser en termes de camion ou avion ou quoi. En clair, nous sommes en présence d'une abondance de vin. Et cela fait penser à certains textes de l'Ancien Testament. Dans l'un de ces textes, Genèse 49, verset 11, il est question de pouvoir laver ses vêtements dans le vin. Tout près de chez nous, à Bruxelles, il y a le lavoir Appert. Myriam, c'est une cliente majeure de Madame Appert. Elle s'entend bien, même si elle a un peu de mal à prononcer notre nom de famille. Elle qualifie Myriam de maman de Clara plutôt que Madame Ellie Hutchinson. Mais en tout cas, elle arrive dans le lavoir Appert et Madame Appert, salut, c'est la maman de Clara. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? 2 draps, d'accord, vous les déposez là maintenant et je peux vous les rendre demain soir, ça va? Rappelez-moi, c'est laver à l'eau ou laver au vin? C'est le même prix. C'est ce type de cas de figure qu'il faudrait avoir en tête, le vin qui coule dans les robinets, en lien avec ce texte en Genèse 49. Et là, dans le verset qui précède, Genèse 49, verset 10, voici la promesse que nous lisons. En lien donc avec le vin, voici la promesse. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. C'est un passage qui parle en filigrane du Messie à venir, du roi dont le trône sera affermi pour toujours. Ce personnage que l'Ancien Testament dévoile progressivement et qui s'avère le roi des rois, le roi instauré par Dieu, qui jouit du même statut que Dieu, qui est Dieu en chair et en os. Ou, autre image tirée cette fois-ci de la fin de la prophétie d'Amos, nous nous situons au mois d'août, c'est le moment de faire la vendange, de récolter les raisins et de les écraser dans le pressoir. Mais les ouvriers sont dépassés par la récolte. Travail d'arrache-pied, mais arrive le mois de novembre, ce qui est normalement le moment où on plante à nouveau, et ils sont toujours en train de récolter. En fait, ce ne sont pas simplement les ouvriers qui sont débordés dans ce cas de figure, car le jus des raisins eux-mêmes déborde, lisons-nous dans ce même passage d'Amos. Tu te balades parmi les collines et si seulement tu avais pensé à mettre tes bottes, tes pieds deviennent mouillés car tu es en train de marcher dans des ruisseaux, non pas des ruisseaux d'eau, mais des ruisseaux de jus de raisin. Ça, c'est l'image donnée par le prophète Amos. Ce texte d'Amos suit immédiatement cette promesse de Dieu, cette promesse selon laquelle, lors d'une nouvelle époque, il relèvera, Dieu relèvera la hutte chancelante de David. Autrement dit, le descendant de David, le Messie, loin de Dieu, tant attendu, le Fils de Dieu, arrivera. On avance de 700 ans, le lieu, c'est Cana en Galilée. Le contexte, c'est un mariage. Arrive en scène Jésus. Il opère son premier signe miracle. Il produit une abondance de vin. Le vin qui coule, pour ainsi dire, dans les robinets. Qui coule, pour ainsi dire, du haut des collines. Le vin qu'on doit associer à ce personnage glorieux. Il est là. Contemplons sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Observons ce vin qui coule à flot. Là, à Cana en Galilée, se trouve parmi les êtres humains le Roi suprême, le Fils de Dieu, voire Dieu le Fils. Que nous nous soumettions à sa majesté. Et le contexte. Vous avez sûrement croisé ce genre d'idée. Vous avez entendu ce type de propos concernant Jésus. Oh, Jésus, c'est un trouble fête. Le grand philosophe français Michel Onfray est connu pour, je cite, un athéisme argumenté, construit, solide et militant. Son projet est de, je cite, réconcilier l'homme avec son corps. Il cite avec approbation Nietzsche, qui voit dans l'idée même de Dieu l'antithèse de la vie, toute haine de la vie. Onfray accuse le christianisme de mépriser le plaisir et le corps. Oh, il est vrai que pour certains, l'idée qu'on se fait du plaisir en lien avec le vin, c'est l'ivresse. Et nulle part dans les Écritures, l'ivresse n'est approuvée, tout au contraire. Mais permettre que le pendule bascule dans l'autre sens serait également une erreur. Dire de Jésus que c'est un trouble fête, alors qu'il pourvoit généreusement du vin pour une fête, ça reviendrait à dire que le passage n'est pas dans la Bible, ou que c'est une simple fabulation. En effet, troisième observation, dernière observation, notons la qualité extraordinaire du vin accordé par Jésus-Christ, la qualité extraordinaire de ce vin. La qualité de ce vin se remarque, verset 10. L'organisateur du repas commente spontanément la qualité. Et je vous invite à noter l'action de l'organisateur du repas. Comment fait-il pour tester la qualité du vin? Est-ce qu'il en prend pour en frotter sur son estomac? Est-ce qu'il en analyse dans un laboratoire? Non, bien entendu. Non. Il en goûte. Et ça lui fait plaisir. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte de cela. J'adore cette idée fausse que le christianisme puisse être incompatible avec le plaisir. Dieu a créé le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Lisons-nous dans le psaume 104. Dieu a un rabat-joie. Quelle idée farfelue et inadmissible. La réalité, c'est que la nouvelle alliance en Christ est présentée comme étant un banquet festif. Un moment de bénédiction immense, un sujet de joie, et tout cela en lien justement avec le vin. Je vous ai fourni des textes sur le carnaval. Il ne s'agit pas simplement de laisser de côté l'eau des ablutions. Non. Mais encore de remplacer cette eau par le vin qui est digne d'un festin. Pas simplement question de laisser de côté l'ancienne alliance, l'ancien régime. Non, mais encore de la remplacer par la nouvelle alliance. On n'a pas simplement affaire à la fin du régime de la loi de Moïse, ce régime condamnateur, mais encore au début du régime de la bénédiction en Christ. Et quelle qualité de relation avec ce Dieu de l'univers qui nous accepte, qui nous accueille, qui nous appelle amis par pure grâce. Je suis ravi que vous étudiez cet évangile lors de ces exposés déjeuner. Parce que vous allez voir, en lisant, relisant cet évangile, à quel point la bénédiction en Christ est remarquable. On a affaire à la grâce, grâce à la place de grâce, grâce accrue, grâce et vérité dans le Christ, ce nouveau régime selon lequel le problème de la rébellion est réglé. Vous avez sans doute déjà vu qu'il est décrit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est sacrifié à notre place pour régler ce problème de la rébellion. Qu'est-ce qui remplace l'eau des ablutions? Du vin dont la qualité est littéralement remarquable. Jésus n'est-il pas en train de manifester sa gloire de par la qualité du vin qu'il produit? N'avons-nous pas envie de nous émerveiller devant lui, devant la bénédiction qu'il assure dans cette nouvelle alliance, devant le fait que nous sommes en bonne relation avec le Dieu de l'univers, si tant est que notre confiance soit placée en lui, si tant est que nous soyons soumis à sa majesté, à la majesté de celui qui est le roi des rois. Et en contemplant la gloire du Christ, n'avons-nous pas envie de soigner notre relation intime avec lui en respectant ses commandements? Jésus manifesta sa gloire, verset 11, lors de ce premier signe miraculeux, de par la transformation extraordinaire de l'eau en vin qu'il a opérée, de par la quantité extraordinaire de vin qu'il a produite, de par la qualité exceptionnelle du vin qu'il a accordé. Mais il a fait tout cela. Je ne sais pas si vous avez été intrigué par cela lors de la lecture faite par Yann. Il a fait tout cela avant l'heure. Verset 4, ces mots intrigants qu'il exprime à l'intention de sa mère. Mon heure n'est pas encore venue. Car le moment suprême de la démonstration de sa gloire, c'est lorsqu'il meurt sur la croix. C'est justement cet événement-là qui permet l'instauration du nouveau régime, qui démontre qu'il est le Messie qui assure les bénédictions réjouissantes de la nouvelle alliance. Vous allez pouvoir continuer à contempler la gloire du Christ en étudiant cet évangile. Et contempler la gloire du Christ, là, a un effet de transformation. Plus loin dans cet évangile, nous lisons qu'un personnage de l'Ancien Testament, un prophète, Ésaïe, que Ésaïe a contemplé la gloire de Dieu sur la face du Christ. Et on peut se demander, mais quelle était la réaction d'Ésaïe lorsque lui a contemplé la gloire de Dieu sur la face du Christ? Eh bien, lui, il s'humilie devant Dieu. Il a son péché en horreur. Et, fort du pardon de Dieu, il se met au service de Dieu. Ça rejoint la question qui m'a été posée. Qu'en est-il d'un éventuel service en francophonie? Mais je suis sûr que vous êtes motivé pour servir là où vous êtes déjà. Mais la question se pose pour nous. En contemplant la gloire de Dieu sur la face du Christ, quelle va être notre réaction? Il y a un certain nombre de questions qui figurent sur le canevas en bas. Merci.